Nous avons trois textes aujourd'hui. Tout d'abord, le verset 22 du chapitre 24 du Lévitique. Il y aura un même droit pour l'émigré et pour l'autochtone. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Puis, dans le Deutéronome chapitre 22, verset 4, si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber en chemin, tu ne t'esquiveras pas, tu l'aideras à le relever. Et enfin, pour le support de la prédication, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, les versets 27 à 38. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanimes, comme votre Père est magnanime. Ne jugez pas et vous ne serez jamais jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez jamais condamné. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurerez qu'on mesurera pour vous en retour.
Alors, évidemment, en se penchant sur ce passage de l'évangile de Luc, on est perplexe en lisant le titre choisi, l'amour pour les ennemis ou l'amour des ennemis. Quand on parle d'aimer nos ennemis, les choses ne sont pas simples. Et ça nous semble parfois tout à fait impossible à mettre en place. Nous savons bien qu'il est dans ce monde des crimes que nous nous sentons incapables de pardonner. On en a des exemples tous les jours. Nous abandonnons ce pardon au Seigneur. Il semble que dans ce texte, quand on parle ici d'ennemis, on va simplement s'occuper de ce qui nous concerne dans notre vie quotidienne, de celui qui s'oppose à nous en général. Mais évidemment, de toute façon, aimer nos ennemis, ça fait froncer le sourcil. Les ennemis, en général, on ne les aime pas. Et ça ne s'arrange pas en continuant la lecture du texte. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange de rentrer dans un véritable masochisme qui consisterait non seulement à supporter le mal, mais en plus, la réponse que la victime devrait rendre est à l'opposé de toute logique. Alors, on nous disait œil pour œil, dent pour dent. C'était un enseignement déjà reçu, et puis qui semblait une attitude normale, équilibrée dans un préjudice subi. C'était déjà un progrès, parce que ça réglait les excès possibles en proportionnant les condamnations. Et rendre le bien pour le mal, est-ce que ce n'est pas faire les choses à l'envers ? Est-ce que ce n'est pas se laisser dévorer par les ennemis au risque de devenir leur proie? vivre en se faisant tout petit par peur de déplaire ou peur d'attirer pire encore. Si on relit le passage précédent sur les béatitudes que Darius a évoqué la semaine dernière, on peut ressentir le même questionnement. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, etc. On est content de trouver la traduction de Chouraki qui semble intéressante. À la place de heureux, on peut traduire en marche ou debout ceux qui pleurent, parce que la place du mot heureux défie notre logique. Et cette nouvelle traduction pourrait nous donner des pistes nouvelles pour le texte qui suit. Alors, il y a un autre texte très important qui rentre dans le même questionnement. C'est le texte du Notre Père qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Est-ce que c'est facile de pardonner quand on nous a fait du mal? Et si on nous pardonne, doit-on automatiquement pardonner aux autres comme si c'était une obligation donnant-donnant? Une autre traduction aussi est possible dans cette prière du Notre Père. Remets-nous notre dette comme nous remettons la dette de ceux qui nous doivent. Si on n'est plus obligé de rendre ce que nous devrions rembourser, alors est-ce qu'il n'y a pas une certaine logique à ne pas exiger que les autres nous remboursent? Dans ce cas, on serait renvoyé dos à dos. Oui, mais alors, est-ce qu'une dette et une offense, c'est la même chose? Parce qu'une dette, c'est une forme d'entente entre deux personnes, alors qu'une offense blesse et peut nuire gravement. Alors, on voit bien que dans l'enseignement que nous transmet Luc, c'est pas simple. On est obligé de chercher à interpréter plus loin, parce que sinon, on risque de se débattre dans des contradictions sans fin, et dans l'incapacité de savoir comment agir face aux autres. Suivre un enseignement donné par Jésus, oui, mais c'est quand même compliqué à mettre en œuvre. Pourtant, c'est cet enseignement qui doit nous conduire au salut, nous promet le verset 35. Votre récompense sera grande. Le salut, c'est-à-dire la santé, c'est la même étymologie, la bonne santé dans la foi. Donc la joie de vivre devant Dieu sans être torturé par la crainte de subir le mal que nous feraient subir les autres. Car en effet, ce sont les autres que les premiers versets du texte de Luc évoquent. Ce que les autres nous font subir, la haine, l'insulte, les mauvais traitements, le vol. Nous serions ici face aux autres, c'est-à-dire face à du collectif. Ces mouvements collectifs, on le sait, qui sont le ferment des guerres, des invasions, au mépris des individus qui en sont les victimes. Faudrait-il accepter l'inacceptable? Alors, en poursuivant notre lecture, on s'intéresse en effet davantage à l'individu, à travers un autre verset du texte. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Voici un verset qui nous fait passer du collectif à l'individuel. Imaginons deux personnes qui se trouvent face à face. Alors visiblement, elles sont en dispute et l'une frappe l'autre. L'agressé va-t-il rendre le coup reçu? Dans ce cas, la dispute pourrait bien se changer en une lutte interminable. Alors que veut dire tendre l'autre joue? Sûrement pas de devenir une victime consentante, mais symboliquement montrer à l'autre que l'on n'est pas tel qu'il le croyait. En tendant l'autre joue, on va montrer un autre aspect de soi. On dit « Regarde-moi, je ne suis pas comme tu le pensais, je suis différent. » Cela peut changer les motifs de la discorde et faire rentrer dans une relation différente. Autrement dit, n'y a-t-il pas une possibilité de comprendre en quoi l'autre voit le monde sous un angle différent? Il n'y a pas qu'une seule façon de comprendre les situations que nous rencontrons. Comment jugeons-nous ce qui nous arrive ? Comment jugeons-nous notre propre responsabilité ? Quelle place avons-nous vis-à-vis de notre semblable ? Finalement, ce qui nous pend au nez, c'est d'être soit en guerre permanente avec l'autre, ou bien de vivre le plus paisiblement possible avec soi-même, voire en l'autre une part de soi-même. En lui montrant aussi un autre point de vue, ce qui nous amènera peut-être à reconsidérer la position qui nous mettait en dispute. Car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurerez qu'on mesurera pour vous en retour, nous dit le verset 38. Y aurait-il donc une récompense à laisser faire ceux qui nous nuisent ? Est-ce que notre salut en dépendrait ? Est-il complètement lié au jugement que l'on aurait sur nos comportements, au jugement dernier, ou ce jugement est-il la perception que nous avons du monde et des autres ? Il me semble que si on envisage uniquement que c'est notre manière de nous comporter qui nous donnera une récompense, cela va à l'encontre de notre notion de grâce gratuite. Non, nous n'avons pas à bien nous comporter pour obtenir le pardon de nos fautes et pour que le jugement de Dieu nous soit favorable. Mais néanmoins, notre manière de nous comporter est une réponse reconnaissante à ce pardon perpétuel que nous avons reçu. Alors, en quoi notre attitude face au mal serait-elle une réponse à ce que Jésus nous enseigne ? Comment mettre en pratique ? Car il est bien question d'une réponse à donner qui nous engage totalement. Nous sommes ici dans un dialogue qui appelle une réponse non seulement intellectuelle, mais aussi une réponse pratique. Et c'est notre réponse, notre positionnement, qui va orienter toute notre vie. Comment débroussailler dans l'enseignement transmis par Luc ce qui nous met en règle avec Dieu, ce qui nous permet de vivre en paix sans toutefois nous effacer et presque disparaître quand le monde nous agresse ? Comment faire pour rester conforme à ce que l'enseignement de Jésus nous commande sans nous débattre sans fin avec des comportements quasi impossibles à suivre ? Sommes-nous vraiment capables d'aimer ceux qui nous persécutent ? Et comment accepter de se dépouiller pour que l'autre ait une vie finalement, mais peut-être même meilleure que la nôtre ? Nous ne sommes pas des héros. Nos vies sont complètement imbriquées dans celles des autres et ce n'est pas facile. Alors est-ce qu'on va accepter de vivre dans le sacrifice permanent ? Qu'est-ce que tendre l'autre joue peut changer dans nos vies ? Repensons d'abord à la prière du Notre Père. Il y est question de pardon des offenses subies, ou bien dans l'autre traduction évoquée plus haut, de remettre une dette à celui qui nous doit. Dans ce cas, au lieu de s'acharner à vouloir obtenir ce qui nous semble être notre droit, ne s'agirait-il pas plutôt de laisser à l'autre le bénéfice de ce qu'on lui a prêté ? Au lieu de prêter, il s'agirait de donner, tout simplement. Quant aux offenses, aux vexations, oublions-les. Pardonnez, pardonnons, car il ne s'agit que de mettre en place le pardon, d'en faire une action qui ne consiste pas tout à fait à oublier, mais à laisser de côté les ruminations contre une personne en continuant sa route dans la paix de l'esprit. Cela va nous apaiser et nous permettre d'avancer sans culpabilité. Ainsi, nous nous distinguons par notre propre discernement de ceux qui restent prisonniers de leur malveillance. Dans Matthieu, au chapitre 6, verset 3, Jésus nous dit « Lorsque tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. » On ne peut pas oublier les difficultés rencontrées, mais être capable de rester ouvert et positif afin de susciter chez l'autre la même attitude. Là encore, on se souvient que tendre l'autre joue peut ouvrir d'autres points de vue à l'adversaire. Et tout ce que nous évoquons, ces changements positifs dans notre attitude, nous mèneraient au salut. En regardant la définition du mot salut, je lis « Le fait d'échapper à la mort, au danger, de garder ou de recouvrer un état heureux, prospère. » Donc d'accéder à une vraie vie, une vie pleine, en étant actif pour lutter dans un monde meilleur. Être actif, car avoir, être, posséder ne suffit pas. Dieu nous appelle à cette vie pleine et fraternelle, participant pleinement à la construction d'un monde meilleur, sans tourments inutiles et vains. Suivre l'enseignement qui nous semble parfois si difficile est une véritable introspection. Que sommes-nous devant les autres ? Cherchons-nous suffisamment, avec détermination, à être fidèles à une autre construction du monde ? Car le royaume de Dieu n'est pas une utopie lointaine. Mais cela pourrait être une meilleure compréhension, un plus grand respect de notre environnement, de l'accueil fait à l'étranger, au sourire qui ouvre le contact, à laisser derrière soi ce qu'il est inutile de ressasser sans fin. Passer par la porte étroite, c'est aussi ne pas se charger inutilement. Être debout en marche, comme le disent les Béatitudes, afin de prendre en main nos vies dans le respect de celles des autres, sans jamais détourner les yeux devant les besoins d'autrui, en fuyant l'indifférence qui ronge notre époque. Le salut, être sauvé de la mort, qu'est-ce que cela signifie ? Revoir la vie de Jésus est une clé de compréhension. Il a accompli sa mission fidèlement, avec entêtement, avec détermination, jusqu'au bout, en assumant pleinement ce que la parole de Dieu lui disait. Bien sûr, on est loin de cet exemple exceptionnel, mais tout de même, nous pouvons y puiser des forces. Tout ce que Luc nous transmet dans cet évangile, revient à suivre cette parole que Jésus nous donne, « Aime ton prochain comme toi-même ». L'amour de l'autre nous place dans une action positive, attentive. Cette parole nous déleste des poids inutiles et nous permet d'avancer avec confiance, fidélité et espérance. Amen.